today. Here we go again. You know how niggas do when we play how we play. Here we go again. A man's gotta do what a man's gotta do. Here we go again.
Bonjour à tous, bienvenue sur Unreal Gen Podcast numéro 90, un épisode absolument cataclysmique. C'est terrible ce qu'on a vécu cette nuit. Force à ceux qui se sont réveillés pour vivre ce cauchemar avec nous. Les Giants ont perdu 40-0 dans ce match d'ouverture contre le rival de Dallas. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comme tu l'as dit tout à l'heure Thiergo, je ne te demande pas comment tu vas.
Non, mais en fait je t'avoue que je suis même un peu surpris. Je pensais qu'on allait parler de l'excellente victoire du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande, 27-13.
C'est vrai.
Tu veux pas qu'on parle plutôt de ça?
On peut parler de je sais pas, faut trouver des sujets de jeux vidéo. J'ai joué à Starfield ce week-end, c'était sympa. Je sais pas, j'ai pas trop de sujets. Et... Bon, j'attendais avec impatience depuis des mois ce match. Je me suis dit, ça y est, je pense qu'on a un peu, réduit l'écart d'effectifs avec eux, c'est super. Rappelle-toi, dans le dernier podcast, je disais, on s'est un peu amélioré sur tous nos postes, on va être meilleur, machin. Et boum, 40-0 dans ta face. Tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé. On a enchaîné le pire du pire, ça a complètement snowball. Bref, on va en parler juste avant.
C'est la loi de Murphy.
Ouais, non, mais enfin, c'est terrible. J'ai rarement vu ça. On avait vécu ça il y a quelques années, mais on va en reparler. On remercie rapidement tous nos participants au Patreon. On remercie Jimmy, Vincent, Guillaume, Yann, Niti, Thomas, Julien, Jérémy et Julien qui participent à ce Patreon et qui soutiennent ce podcast. Et c'est quand même avec un grand plaisir, évidemment, qu'on parle de branler, qu'on se prend. Bon, alors on va quand même espérer que ce ne sera pas toute la saison, mais juste voilà, comme d'habitude, Thiergo, est-ce que tu peux rappeler très vite pour les nouveaux comment on peut participer à ce Patreon si on veut soutenir ce podcast et les Giants en France?
Alors, il y a quand même, il faut le dire, hein, deux manières de participer à ce Patreon. La première, elle est gratuite. C'est likez-nous, abonnez-vous, mettez des commentaires, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Donc ça, je le balance comme ça.
Ouais, et d'ailleurs, j'en profite, puisque de plus en plus, vous nous suivez sur les podcasts qui ne sont pas visuels, c'est-à-dire pas sur YouTube. Et donc, n'hésitez pas sur les plateformes, notamment Apple, à mettre des étoiles. C'est toujours cool.
Ouais, tout à fait. C'est ça. Et on a des très bons feedbacks et ça nous fait super plaisir. Et en fait, c'est pas que du vent, hein, c'est pas que pour notre ego. C'est plus il y a de feedback de votre part et surtout du feedback positif, hein. Après si vous avez du feedback négatif, dites-le nous aussi, on s'améliorera, mais ça permet de donner plus de visibilité au podcast et donc de répandre la bonne parole des Giants. Alors dans des moments comme ça c'est un peu difficile, mais c'est justement ce qui distingue les vrais fans de ceux qu'on appelle les footics, vulgairement en français, ou bandwagoner, mais tout ça pour dire que ça c'est la première étape. Après, si vous voulez faire un peu plus, et ça il n'y a aucune obligation, mais il y a le Patreon, patreon.com/onlyagentpodcast, où vous pouvez contribuer financièrement au podcast par des abonnements, et donc ça peut être 3€, 10€, et je crois qu'il y a un peu plus, j'ai plus tous les niveaux. Vous pouvez faire ça plusieurs mois, vous pouvez faire ça qu'un seul mois, et si vous le faites, et ben vous avez le droit à des petits goodies selon votre niveau d'abonnement. Et on vous remercie tous, tous ceux qui ont participé et tous ceux qui participeront à ce podcast et à nous permettre de continuer cette belle aventure.
Pour info, on va lancer un achat groupé de t-shirts, comme je l'avais dit plusieurs fois. Ça y est, c'est prêt, on va pouvoir le faire. Je le lancerai, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé ça, qu'on allait le lancer à la première victoire des Giants. Donc une fois que les Giants gagnent, le lundi ou le mardi qui suit, je lancerai l'article et donc juste pour info, le but c'est de faire un achat groupé, donc on va vous demander de payer en avance, on n'a pas trouvé de moyen moins cher en fait, parce que forcément c'est un achat groupé qui est le moins cher, sinon il faudrait payer chaque livraison etc, ce serait trop compliqué, donc on vous demandera de faire un virement PayPal et ensuite on achètera tout groupé, je vous enverrai à la mémine tous ces t-shirts, bref, on verra ça quand on aura fait une victoire. C'est raté pour ce premier match, donc on va pas faire le fil du match, juste rapidement pour comprendre ce qui s'est passé. Et je disais le terme snowball, pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est un terme anglais qui veut dire qu'en gros ça... D'un petit truc qui se passe mal, c'est l'effet boule de neige, ça se passe de moins en moins bien, et donc, ou de mieux en mieux d'ailleurs, suivant les cas. En gros, on a la balle, on fait un drive, on lance pas une seule passe. Il pleuvait à verse, mais c'est pas une excuse parce que les Cowboys ont réussi à faire des passes quand même. On a fait que des courses. On sentait que la O-line était moyenne, il y avait de la pénétration, mais on a réussi un peu à cacher ça avec des courses de Jones, avec des courses de Barkley, etc. On arrive en end zone, en troisième tentative, et je sais plus, 7. On fait un fumble en fait. Le snap est très mauvais de la part de John Michael Schmitz.
Donc, ça a commencé par un false start de Thomas.
False start petite de Thomas, erreur. Oui, c'est vrai.
Petite erreur qui arrive. Bon, très bien. Après, tu as justement notre rookie center qui a complètement loupé le snap. Et donc là, fumble. Et là, t'en dire. Erreur de rookie.
Ouais, tu te dis, c'est pas grave. C'est rien de dramatique. À ce moment-là, je me dis, ils vont parler de sa technique de snap parce qu'elle est un peu particulière, la manière de tenir le ballon. J'étais sûr que ça allait revenir sur le tapis. Bref. Et donc, s'ensuit le field goal qui est contré. Le ballon reste dans les limites du terrain. C'est un joueur des Cowboys qui récupère la balle et il marque 6-0. Donc là, tu te dis, ok.
Non, attends, déjà, un field goal bloqué, ça arrive pas souvent.
Non, mais qu'il soit retourné
un
pour.
Field goal bloqué. Retourner pour t'aider. Alors là, et il y a Laurent Steins qui expliquait que Ezoudou justement avait fait une énorme erreur technique. Pour lui, c'est lui le fautif. C'est-à-dire que il aurait dû d'abord protéger son intérieur avant de se décaler vers l'extérieur.
Bah, il faut protéger le joueur qui est le plus, qui peut être le plus rapidement sur le ballon, et c'est forcément à l'intérieur. Donc
voilà.
Laisser passer un mec à l'intérieur comme ça, c'est juste pas normal. Bref. On reprend la balle, ça se passe mal, on se fait saquer, on se retrouve en troisième tentative et très longue. Bon là, les Giants se disent, allez, on va faire une petite passe courte sur Saquon Barkley. Il rattrape à peine la balle, il se fait défoncer et donc c'est pas considéré comme un fumble. Le ballon s'envole et c'est un défenseur qui récupère la balle, pick six. Donc du coup, bon là, c'est pas la faute de Jones. Et là, tu te dis, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. C'est typiquement le genre de match qui va mal se passer. Et ça m'a rappelé, je te le disais, on avait déjà vécu ça quelques saisons. Je sais plus il y a combien de temps, 3-4 ans, où c'était quand Saquon Barkley s'est blessé. Où on, en gros, tous nos joueurs se sont blessés, ça se passait mal, il n'y a rien qui allait bien. Grosse blessure sur grosse blessure, on n'avait plus le joueur, on n'avait plus rien. C'est exactement le même sentiment que j'ai ressenti. Bon, là, on n'est pas au même niveau de blessure. Mais dans ma tête, c'était... ça peut pas bien se passer, ce match. Avec, juste avec ces éléments-là, ça peut pas être pire que ce qui s'est passé. Bon, est-ce que tu as envie de parler de la suite ? Oui, c'était pas foutu, mais...
Alors, on va pas faire tout le déroulé du match parce qu'on n'est pas non plus sadomaso, mais moi, ce que je veux dire, c'est que à un moment, on était à 9-0, et à 9-0, je me disais, c'est bon, on est encore dans le match, on a mal commencé, on peut se reprendre. Et puis, quand il y a eu ce pick 6, tu te dis, oh là là, c'est pas possible.
Non, mais le pick 6, en fait... le pick 6, il a eu lieu à combien ? À 9-0 ? Je me souviens plus. Bref.
Ouais, parce qu'en fait, ils ont donc on a.
Bon, peu importe, c'est pas très important.
Il y a eu le field goal bloqué, on a eu le ballon, on n'a rien fait, et puis en fait après ils ont eu à nouveau le ballon et ils ont eu qu'un field goal. Et puis c'est là que c'est sur la possession suivante où là il y a eu le pick six. Et en fait, ce qui est, enfin, le truc c'est que. Absolument tout le monde a droppé ou a fumblé ou a n'importe quoi. Jones, il avait zéro protection. À peine il avait le ballon, qu'il avait déjà trois gars sur lui. Andrew Thomas se serait apparemment blessé sur le fumble bloqué. Graham Gano a été blessé aussi, s'est pris un coup de crampon dans la jambe sur cette même action. Et Evan Neal se faisait bouffer, pas par... uniquement des titulaires, il se faisait bouffer par des joueurs de 3e ou 4e rang. Enfin bon, rien n'allait. Et puis les quelques passes bien ciblées de Jones, alors il faut bien l'admettre, c'est que la deuxième interception de Jones, il a tenté...
Ah, mais elle est ridicule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il doit la lancer dehors, cette passe-là. Ça, c'est ridicule.
Non, mais voilà. Mais il l'a dit, je voulais...
Il a forcé, parce qu'ils étaient dans la merde, ils se disent, il faut tenter un truc, et c'était de la merde.
Mais voilà, mais on a vu tout un tas de passes. Il y a eu des passes qui étaient quand même bien foutues et qui ont été droppées. Enfin, c'était catastrophique de bout en bout. Et côté de nous, côté défense, on était incapables de faire quoi que ce soit. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que quand tu regardes les stats de Dak Prescott sur ce match, alors oui, il n'a pas fait le dernier quart-temps, mais en fait, je crois qu'il a fait que genre 13 passes complétées.
13 passes complétées sur 24, 143 yards. Il fait un match lambda, mais on s'en fout, ils n'avaient pas besoin de ça. Les mecs, ils menaient 19-0, ils n'avaient même pas mis un TD offensif, je crois.
Oui, non, mais en fait, ça, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est que no notre défense, elle se faisait pas dominer, mais elle ne dominait pas non plus. Le pass rush était complètement absent. On a
Ah
vu
oui,
Zach
parce que moi c'est
Martin
ça, on a fait zéro
dominer
sac.
Dexter.
Zéro sac.
Voilà. Dexter Lawrence s'est fait dominer par Zach Martin. Alors, ça va, Zach Martin, c'est quand même un futur Hall of Famer, donc il n'y a pas de honte à se faire dominer par lui. Mais ce que je veux dire, c'est que Dexter Lawrence, c'est pas non plus un manchot, au contraire. Non, le score, il ne fait que refléter une réalité qui est très difficile à avaler, c'est que on n'est toujours pas au niveau. Alors, il faut pas non plus se dire la saison est finie, il n'y a rien à en tirer, etc. Non, je ne pense pas qu'on en est là non plus, parce que on aurait très bien pu terminer à une défaite avec un score de 19-20, hein, et tout serait bien passé. Mais c'est sûr que ça fait extrêmement mal au cul de se prendre un 40-0 à la maison et de se faire humilier par des backups. Parce qu'à la fin, c'était les backups qui nous humiliaient. C'était quand même ridicule.
Bah, en même temps, mec, il y a un moment, t'as le côté psychologique qui entre en jeu. Donc, oui, les backups, ok, mais t'as des
Ah ouais,
backups
complètement.
survoltés contre des titulaires qui n'ont plus rien à foutre et qui sont 6 pieds sous terre et qui attendent qu'une chose, c'est que le match se finisse. J'ai déjà vécu ça, enfin, peut-être si vous faites soit du foot américain, soit d'autres sports collectifs. Et à un moment donné, en fait, c'est. Enfin, je veux dire, t'as beau être la motivation incarnée, quand on est à ce stade-là de malchance, de trucs qui se passent pas bien. En plus, toi, tu. Enfin, je veux dire, un field goal bloqué, retourné, une interception, pick
Ah
6.
ouais, non
Il y a
mais je
c'est
comprends
tellement de
tout.
trucs à un moment donné dans ta tête, c'est juste plus possible. Tu veux qu'une chose, c'est on arrête, allez, c'est terminé, le match était fini, on repart à zéro. Donc, oui, on a été surdominé, mais à un moment donné, c'est juste que les mecs étaient plus, quoi.
Non mais c'est ce que Justin Pugh a d'ailleurs dit, hein. Justin Pugh, ancien garde des Giants, qui faisait partie de l'équipe du Super Bowl et qui après est parti jouer à Arizona, qui aujourd'hui est à la retraite. Il l'a dit, en fait, des matchs comme ça, il en a vécu par lui-même, c'est ultra difficile pour les joueurs, mais ça ne définit pas l'équipe. Et je serais très curieux de... En fait, je serais très curieux de savoir si Daboll, à la mi-temps, les a engueulés. Ou si au contraire il a fait plutôt preuve de compassion en disant attendez les gars, on oublie la première mi-temps, on se reprend à la deuxième mi-temps. Et je pense que à la fin du match, il n'y a pas dû avoir d'engueulade. Il a dû leur dire bon, c'était un match de merde, mais à partir de demain, on se remet au boulot et on avance. Parce que en fait, il n'y a que ça que tu puisses dire. Et c'est la seule chose qu'il pouvait dire en conférence de presse. Il a dit non, mais tout était nul. Et tout ce que tu veux, tout ça, c'était nul. Et il faut que on regarde ce qu'on a fait. Et qu'on corrige, parce que sinon la saison elle va être extrêmement longue.
Oui, bah c'est ce qu'il a dit, c'est que tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé. Personne n'a été au niveau, les coachs, les joueurs, personne. Il n'y a rien qui a fonctionné. Ils se sont fait outcoacher du début à la fin. Bon, voilà, on a beau dire tout ce qu'on veut, il y a quand même un gros problème de fond qui risque d'être un gros problème sur toute la saison. C'est le niveau de cette ligne offensive. Sans compter le fait qu'Andrew Thomas, bon, il doit passer un. C'est quoi MRI déjà? C'est pas un scanner, c'est pas une.
IRM.
Oui, ouais, IRM, ouais. Faut juste inverser les lettres. Une IRM, ce matin, on enregistre le podcast lundi, il est midi. Il va passer, il est 6 heures là, actuellement aux États-Unis. Il va passer une IRM et on saura plus ce qu'il en est. Si jamais il peut plus jouer, bon, c'est. Voilà. Evan Neal, c'est quand même très compliqué. Ça fait 2 fois. Il avait déjà fait son pire match l'année dernière contre les Cowboys. Est-ce que c'est devenu psychologique? J'en sais rien. Je lui laisse encore, allez, 3 matchs, 4 matchs. Si jamais ça s'améliore pas, il va falloir faire quelque chose. Enfin,
Ouais, alors il y
ça
a en
a beau être
fait.
un pic super haut, à un moment donné,
Ah
tu le
ben,
mets en
si c'est
remplaçant
un
et
bust,
tu
hein,
trouves
quoi.
quelqu'un d'autre et t'attends qu'il progresse parce que là, c'est plus possible. On peut pas compter sur un mec comme ça. Bon, il n'est pas le seul. Glowinski s'est fait bouffer. Enfin, tout le monde s'est fait bouffer
Et
dans ce
voilà, c'est ce que
match-là.
j'allais dire, c'est que Glowinski est peut-être cramé aussi, hein, et ça n'aide pas. Mais comme tu dis, je pense que Evan Neal, faut lui laisser, allez, je dirais même 4 à 6 matchs pour voir comment ça se passe. Mais si le gars, à chaque fois qu'il a une mauvaise prestation, il dit. Oh bah c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai plus envie que ça recommence. On va dire
Qu'est-ce que tu veux
mec
qu'ils
bon là
disent?
c'est que la deuxième.
Il va pas dire que je suis une grosse
Non
merde.
mais si un peu au bout d'un moment non tu vas non il va pas dire que mais je veux dire c'est que il peut pas sortir ça à chaque fois. Il l'a déjà dit la dernière fois et puis là là faut qu'il trouve autre chose et surtout il faut plutôt des actes que des paroles. Alors je m'attends pas à ce qu'il dise je suis une grosse merde et qu'il sorte le fouet mais au moins qu'il se sorte les doigts du fondement. Donc on va lui laisser encore quelques matchs, mais je suis d'accord avec toi, hein. Si ça marche pas, ça marche pas. On a drafté un bust Et c'est quand même une grosse tache sur le palmarès de Joe Shane si c'est un bust.
Ouais,
Mais
après, mec,
on
je
n'en
veux
est pas
dire,
encore là.
t'as des consensus sur des mecs qui sortent comme les meilleurs de leur QV. Je veux dire, n'importe quel GM aurait fait la même erreur. Quel
Non, mais bien
GM aurait
sûr.
dit, je laisse passer le mec qui est considéré par tout le monde comme le numéro 1 ou numéro 2 à ce poste, alors qu'on avait un gros trou à ce poste-là? Je veux dire, personne lui en voudra. On va pas dire, ah putain, quel GM de merde, il a quand même drafté Evan Neal.
Non,
Tout le monde savait que c'était
mais
un
ça
bouffon.
fait. Ça fait quand même tache sur le
Bah oui,
palmarès.
mais bon, je
Qu'il
veux
y ait eu
dire, c'est tu.
consensus ou pas, ça fait tache. Mickey Becton, tout le monde disait oh, ce type est incroyable et tout. Et puis là, pendant Hard Knocks, on n'a pas arrêté de dire que le gars, en fait, il allait se faire couper parce qu'il n'était pas au
Bah
niveau.
oui, bien
Je veux
sûr.
dire, c'est que, bien sûr, il y a ce que. Et c'est ce qui fait que la draft est un processus si compliqué. C'est que tu peux avoir quelqu'un qui a eu énormément de succès au niveau universitaire qui devient une véritable bouse en NFL pour différents facteurs. Evan Neal, on va pas dire que c'est un bust déjà, mais il est en train de s'en approcher s'il continue dans cette voie-là.
Ah bah ça c'est clair. Et après, regarde, bon oui, la draft c'est important. T'as des équipes, je sais pas comment ils font, les 49ers, ils échangent 46 premiers tours de draft, ils se mettent dans la misère pour leur draft de je sais pas combien d'années, avec Trey Lance et leur histoire là où ils l'échangent contre un quatrième tour, ils arrivent à être une des meilleures équipes de la ligue. Donc bon, et je veux dire, c'était pour un QB, c'était pas un mec de ligne offensive. Donc tu peux quand même t'en sortir, bon ils ont peut-être eu un peu de chance sur Brock Purdy pour le coup, mais tu peux,
C'est
t'es
clair.
censé pouvoir t'en sortir quand même, même si tu te loupes de temps en temps sur un pick. Bon, c'est trop tôt pour juger ce qui s'est passé sur d'autres joueurs. Deontay Banks est resté assez intéressant sur ce qu'on a vu. Ça m'a énervé, ça, sur Trey Hawkins. Tu as vu l'interférence de passe qu'il fait sur une passe longue. Ça, c'est typique, hein. De toute façon, ils mettent Brandin Cooks sur l'extérieur tout seul contre Trey Hawkins. Ils savent qu'il est en man-to-man. Ils lui font faire un tracé long. Dak Prescott, je pense même pas qu'il se dit il va capter la balle. Il se dit juste, je vais essayer de trouver une interférence de passe contre un corner rookie sixième tour. Bah oui, très bien joué, effectivement, voilà. Brandin Cooks la joue très bien. Il s'écroule comme une vieille merde, sans qu'il y ait vraiment faute, je pense. Le mec rookie se fait avoir. Bon, voilà. Ce genre de petits trucs aussi, ils l'ont bien fait et ils nous ont eu comme ça. Mais bon, voilà. Pour le coup, c'est très difficile d'avoir un jugement sur n'importe quel rookie. Après un match, tu peux pas dire quoi que ce soit. Jalen Hyatt, je sais même pas s'il a joué. Il a rien fait. On l'a pas vu.
Si, il a droppé une passe de Daniel Jones, mais la passe était un peu en arrière. Donc, c'était pas la passe. Enfin, ça a
Moi,
touché
je te
ses
cache
mains,
pas
tu
qu'à la
pourrais
mi-temps, j'ai
dire.
arrêté de regarder. Hein, donc, j'ai pas fait le
Oui,
reste.
bah, oui, en même temps. Enfin, je veux dire, j'aurais été sur le créneau horaire français, j'aurais fait la même chose. Moi, j'ai tout regardé, mais. Ouais, non, c'était vraiment très moche. Alors, après, si on veut relativer un peu, c'est pas la pire défaite de l'histoire des Giants,
Ouais,
on en
alors
parlait
vas-y,
avant le
dis-nous ça, parce
podcast.
que c'est bon, c'est pas la pire défaite, mec, mais on en est quand même vraiment pas loin.
Ah non, mais attends.
C'est historique, cette
Donc
performance, on est
on
d'accord, il faut
est
le
on
dire,
est donc
c'est historiquement
non mais
nul.
regardez, tu vas voir, regarde. Notre pire défaite, c'est un déficit de 56 points contre les Steelers en 1952 où on a perdu 63 à 7. Donc là, t'as envie de dire au moins on a marqué un TD, hein. Contre les Bears, 49 points, 56 à 7. Donc ça c'était en 43. 1953 contre les Browns, 14 à
Mais
62,
t'imagines là, t'es
48
en train de
points.
remonter il y a 70 ans, mec, quand même.
Voilà. Mais là justement, en fait, on s'était pas pris une telle. Je ne vais pas faire toute la liste, mais je vais juste vous donner deux matchs. Une telle défaite depuis 1973. C'était un déficit de 42 points contre les Raiders, 42-0. Voilà. Et contre les Cowboys, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Ils nous avaient battus en 66, 52 à 7. Ça pique.
Il n'y a pas si longtemps
Voilà.
que ça,
Mais
ils nous
pour.
avaient mis un 35-0 aussi. Je me souviens plus quand, mais bon, bref, les Cowboys, on a du mal quand même.
Ah non, mais attends, en ce moment, avec les Commanders, on est les deux équipes en bas de la NFC East, on se fait éclater absolument par tout le monde. Il y a quelqu'un qui disait que sur les deux derniers matchs de division, donc si tu comptes ce match de division plus le match de playoff contre les
Ah bah
Eagles,
j'étais en
les
train
Giants
exactement de
sont.
penser à ça. Ça fait combien en tout? Parce que je me souviens plus, on s'était fait tellement pourrir aussi par les Eagles.
Et 78 à 7.
Quel enfer,
78 à.
putain.
Parce que je crois que c'était 38 à 7 contre, lors du match de playoff.
Oh là là, putain.
Et ce qui est dingue, c'est qu'on aurait. Tu l'avais dit avant le podcast, on a été quand même deux fois à portée des poteaux. On aurait dû avoir 6 points. Et on les a pas
Ouais,
eu.
on
Et
aurait.
ça, on est jamais
Après,
content.
enfin, le match aurait pas été très différent. Je pense qu'on aurait perdu quand même. Mais c'est vrai que la dynamique est un peu différente. C'est sur le premier drive. Bon, il n'y a pas ce fumble que tu mets un petit field goal quand même. Bon, il se passera pas des événements comme ça aussi malchanceux tout le temps. Moi, ce qui me fait chier, par contre, c'est que cette défaite arrive à un moment où on est un peu positif, on sort d'une bonne saison, on a drafté des joueurs cool, on pense que l'équipe est meilleure globalement, et là, bam, la plus grosse défaite. Alors peut-être que c'est une piqûre de rappel et que ça va bien se passer ou moyennement se passer sur les prochains matchs, mais on va pas perdre 40-0 toute la saison. Mec, la pire période là, des 4 dernières saisons avant l'année dernière, où tout se passait mal tout le temps, on faisait des 3-4 victoires maximum, on n'a jamais vécu une défaite comme ça.
Non, alors, ça se trouve, on vient de remplir notre quota de malchance pour la saison.
Putain, ce serait bien.
T'imagines, la seule défaite que t'as, c'est un 40-0, et puis après, t'as que des victoires. Alors non, bien entendu, je n'y crois pas un seul instant. On n'a pas que des victoires. Vu le calendrier qu'on a, on va en avoir d'autres des défaites. J'espère pas non plus qu'on aura d'autres 40-0 comme ça. On a une opportunité de se remettre sur les rails contre les Cardinals, qui sont quand même extrêmement affaiblis.
Ah, ben, ils tankent, c'est l'équipe qui tanque. Je veux dire, ils en ont plus rien à foutre, les Cardinals. Ils ont fait venir Joshua Dobbs, on sait même pas d'où, qui est à peine dans l'équipe depuis 2 semaines et qui se retrouve QB titulaire. Enfin, c'est bon, voilà.
Oui, non, mais voilà, mais tout ça pour
dire. Et les Commanders, ils ont eu du mal à les battre. Hein.
Voilà, il faut pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite. Là, ça nous a fait tous une douche froide parce que. On l'a dit hein, pendant le training camp, on était ultra positif, mais que ça nous était déjà arrivé lors d'autres saisons de se dire sur le papier ça a de la gueule et puis sur le terrain ça ne ressemblait à rien. Bah là c'est une bonne piqûre de rappel en effet. Maintenant il va falloir voir pour les saisons suivantes. Il y a juste une chose dont je voudrais parler. Il y a eu beaucoup de débats sur le fait que Brian Daboll ait laissé Daniel Jones sur le terrain alors que pendant le quatrième carton alors qu'en fait il y avait on était déjà à 33-0 ou voire 40-0. Daboll a dit, et c'est en ligne avec ce qu'il avait dit l'année précédente, il dit pour moi, je ne prends pas des décisions en fonction des blessures. Le football, c'est fait pour être joué, et puis on prie pour pas qu'il y ait de blessures. Il y a beaucoup de gens qui critiquent cette décision par rapport à Daniel Jones, parce qu'en effet, il s'est pris quand même 3 taquets sur sa dernière série, et si en plus de te prendre 40-0, tu perds ton quarterback que tu viens de payer 160 millions de dollars, ça fait chier. Mais d'un autre côté, je comprends aussi la position de Daniel Jones, parce que Daniel Jones, si vous voulez rester, Daniel Jones et Brian Daboll, qui disaient, non, faut au moins qu'on aille chercher quelques points, histoire de ne pas terminer à 40-0, oui, et ils n'ont pas réussi à le faire.
Oui, je trouve ça logique, puis tu te dis, essayons de sortir un petit truc positif à un moment donné de ce match-là. C'est vrai que le problème, c'est que, comme on disait tout à l'heure, ils étaient tellement plus dans le match que, bon, voilà, c'est... Bon, c'est juste pour relativiser un tout petit peu, c'est pas incroyable, enfin c'est pas incroyable, ça arrive que des équipes sur les premières journées se ratent, fassent des mauvaises prestations et puis se relancent petit à petit dans la saison. Les Bengals ont perdu contre les Browns 24-3, bon c'est quand même... J'ai l'impression que les mecs qui viennent de signer des gros contrats n'ont pas réussi à faire des bons matchs. Joe Burrow, il fait même pas 100 yards à la passe. Hein. Il fait 82 yards à la passe, 14 sur 31 sur ce match, contre les Browns, qui ne sont pas l'équipe du siècle.
Mais Joe Burrow, il a l'excuse d'avoir loupé tout le training camp parce qu'il était...
Bien sûr. Mais bon, enfin, je veux dire, si tu penses que ce n'est pas lui ton meilleur joueur, tu ne le fais pas jouer. Donc voilà, ça reste quand même que 82 yards, c'est quand même pas beaucoup. Regarde, il y a quand même des équipes qui ont perdu, les Chiefs, ils ont perdu. Bon, ils n'ont pas pris 40-0, mais voilà, il faut pas juger une saison sur un match, c'est ça que je veux dire. Et il peut se passer plein de choses, on a déjà vu des équipes. Il faudrait voir les stats de combien d'équipes ont perdu et puis ont finalement eu des bilans positifs. On va pas s'arrêter là, mais c'est vrai que la prestation est tellement moche que c'est dur d'en tirer du positif quand même.
Ouais. Et juste un mot. Et juste un mot pour, en fait, Joe Burrow, excuse-moi, j'ai eu une vidéo qui s'est enclenchée pendant que je parlais, je me disais, ça vient d'où ça ? Joe Burrow, je pense qu'en fait, c'est pas qu'ils pensaient pas que c'était pas le meilleur joueur, hein. Je pense qu'au contraire, ils sont convaincus que c'est leur meilleur joueur, mais juste le gars, il était rouillé, il était pas chauffé, et là, c'est un peu l'impression qu'on avait avec les Giants, on avait l'impression d'être sur un quatrième match de pré-saison où, en fait, on s'en fout un peu du résultat et il faut faire tourner l'effectif. C'était pénible à regarder, et d'ailleurs même les commentateurs étaient en galère, ils disaient du troisième quart-temps, ils disaient ça va être dur d'animer ça jusqu'à la fin.
Ah bah c'est gênant, tu sais pas quoi faire quoi. Juste aussi parce que j'ai vu ça passer, Daniel Jones il est pourri, on a signé un contrat. Même j'ai vu des comptes assez connus qui disaient oh là là, les Giants vont devoir se taper ce mec pendant pendant 2 ou 3 ans avec son contrat à 160 millions. Bon, déjà, il est, comme on avait dit l'autre fois, il est sorti du top 10 hein, maintenant dans les contrats, donc c'est pas un contrat si énorme et c'est pas sur beaucoup d'années non plus. Mais surtout, comment tu peux demander à un QB de faire quoi que ce soit quand il a à peine une seconde? Alors, mec, c'était ouf. Il faisait une feinte de remise sur le coureur. Il avait à peine le temps de tourner la tête qu'il y avait déjà deux mecs sur sa gueule. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est... Oui, il fait une erreur sur l'interception. Oui, voilà, machin, tout ce que tu veux. C'est... À un moment donné, si le mec n'est pas protégé, tu peux rien faire. Et on a dit ça des dizaines de fois sur nos 90 podcasts. Et le problème n'est pas résolu pour le moment. T'as beau avoir... On a parlé de la vitesse en attaque, etc. Tu peux rien faire tant que ton tant que ta line ne te protège pas. Tu peux rien faire. C'est pas possible.
Mais ça sert à rien d'écouter et de perdre de l'énergie à des gens qui vont avoir des opinions sur la base d'un match.
Mais on en a aussi des opinions. Enfin, t'as le droit d'avoir des opinions, non, c'est pas un problème. Mais tu peux pas juste juger une saison entière ou un joueur sur un match.
Voilà, on n'est que sur un match. Après, qu'on vienne me dire ça quand ça fait 4 matchs que Daniel Jones est pourri, là, je veux bien l'entendre et je suis même l'un des premiers généralement à me poser des questions. Enfin, je n'ai pas besoin des autres pour ça. Mais Daniel Jones, c'est le cadet de mes soucis aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus dans cette équipe, c'est la ligne offensive. Parce que si on n'a pas de ligne offensive, eh ben, y a rien. En fait, tout le match a été perdu dans les tranchées. Hein. Notre ligne défensive s'est fait dominer par la ligne offensive qui était pas, des Cowboys qui n'était pas au complet, hein, précisons-le. Et notre ligne offensive s'est fait dominé par tout le front seven des Cowboys, mené par un Micah Parsons qui est absolument monstrueux. Mm. C'est, en fait, c'est terrible de se dire qu'on va devoir se taper ce gars-là encore 10 ans. Tu vois, limite, j'espère qu'il va avoir des demandes contractuelles tellement hallucinantes que les Cowboys vont dire jamais de la vie. Mais bon, les Cowboys sont du genre à te faire signer un contrat à 300 millions pour 250 ans, si ça te fait rester. Ouais, Micah Parsons, on va se taper encore très longtemps. Trevon Diggs aussi, enfin, ça fait mal. Hein.
Ouais, non, mais ils ont deux bons corners. Bon, voilà, juste si on veut, bon, j'ai pas envie de que ce podcast dure des heures et des heures. Juste pour les Cardinals, je suis en train de regarder parce que tu parlais des tranchées. Ils ont quand même fait 6 sacs, hein. Donc ça me rassure pas beaucoup. Deux mecs que je connais même pas. Je connais pas les joueurs qu'ils ont. Je sais pas qui c'est, mais ils ont fait 6 sacs.
Donc, après, il me semble que notre ami Gauthier de Commanders BE nous disait que la ligne offensive justement des Commanders était l'un des points faibles.
Donc, oui, bah comme nous. Du coup, bon, ils ont quand même réussi à gagner 20 à 16 les Commanders. Par contre, il faut le gagner ce match, puisque derrière, on se déplace chez les 49ers. Je crois pas que on va aller taper les 49ers bizarrement. Alors après, on peut toujours faire un beau match, mais bon, ils sont dans les tranchées, je pense qu'ils vont être aussi trop forts. Ça va être compliqué. Il faut gagner ce match-là contre les Cardinals, il n'y a pas de choix.
Ah oui, non, mais c'est sûr. Enfin, voilà, prochain match, dimanche prochain.
C'est à quelle heure?
À 22h05 en France.
Ok. Bon, au moins un horaire à peu près potable, je ne serais pas obligé d'aller me coucher à 20h pour me relever à 2h du mat. Comme.
Moi, je crois que ça fait 8h du matin chez moi. Et puis en fait après on enchaîne justement le jeudi 21 septembre en Thursday Night Football contre les 49ers. Donc ouais, ça va être une série de matchs difficiles et on l'avait déjà dit
on
avant
savait,
hein, parce qu'en plus on se déplace hein, c'est Arizona, San Francisco, Seattle. Ah non, Seattle c'est la maison, autant pour moi, Seattle c'est la maison, mais tu dois quand même aller de San Francisco à New York et puis la semaine suivante tu vas à Miami, enfin bon bref, c'est quand même bon, c'est le lot des joueurs de football
et hein, Miami ils ont été, il a mis 8 milliards à la passe sur son premier match as là, c'est...
t'as vu Hill qui disait qu'il voulait faire 2 milliards à la réception cette saison et il a déjà fait 210 yards dans un seul match, ça veut dire ouf.
Putain.
Ouais, Tarik Hill, c'est impressionnant. Ouais.
Bon, ça me déprime pour la suite. Ah, on finit sur une note positive, en tout cas, ce podcast, c'est cool.
On va passer une semaine de merde.
Ah ouais, moi, ça c'est sûr.
Moi, je vais éviter de lire trop de trucs sur la NFL cette semaine, en tout cas jusqu'à samedi. Et dimanche, en tout cas lundi matin chez moi, je serai au bureau. Avec mon téléphone en screen en train de regarder le match. Mais ouais, non, ça. Ne perdez pas espoir, ce n'est qu'un seul match, il y en a 16 autres.
Ouais, et merci Thiergo. On espère vraiment vous retrouver la semaine prochaine pour un podcast de victoire, quelle qu'elle soit. Hein. Après, c'est vrai que on a envie de voir une équipe qui fait des belles choses. On avait vu un seul drive pendant cette pré-saison qui était par l'équipe titulaire qui était super. On s'est dit, oh là là, ça va être la folie cette année. Et c'est vrai que bon, c'est vraiment la douche froide ce matin. Et on va se serrer les coudes et on va attendre le match la semaine prochaine en espérant des jours meilleurs, en espérant que c'était un faux pas et que l'équipe saura se reprendre rapidement. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci Thiergo, et on vous dit à la semaine prochaine pour le débrief du match contre les Cardinals. À plus tout le monde, salut!
À la prochaine!